Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie. Question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier.
Salut toutes et tous, vous êtes en direct de Radio Méga à Valence, en différé de RDOA à Adi et de Radiola, web radio basée à Diolfi. Atomic Mac est une émission antinucléaire mensuelle réalisée par l'association Arrêt du nucléaire Drôme Ardèche. Dans cette émission, nous allons aborder le dossier des normes dans l'industrie nucléaire et pour cela, nous avons invité Dominique Malveau. Salut Dominique.
Bonjour à vous deux et aux auditeurs.
Alors, syndicaliste Sudrail à la retraite, ancien membre du comité d'hygiène et de sécurité nationale de la SNCF et fondateur de cette émission Atomic Mac. Nous avons aussi invité, mais eux ils seront interviewés en différé, Alain Vol, porte-parole du collectif Stop Tricastin, et Guillaume Vermorel, ingénieur en génie mécanique et productique. Dominique, Jean-Pierre et Gérard sont présents, le reste de l'équipe, Kim et Georges, ne sont pas disponibles aujourd'hui. Nous vous saluons toutes et tous, auditrices et auditeurs fidèles des Radios Libres. Le billet de Georges par Dominique.
Bonjour à tous, c'est toujours l'évolution de la situation à Fukushima dans ce billet. Le monde d'après l'AFP du 15 mars nous apprend qu'un séisme de magnitude 5.8 est survenu vendredi à minuit 14 heure japonaise, jeudi 16h14 à Paris, au large des côtes du département de Fukushima, heureusement sans provoquer de tsunami. Je cite TEPCO, la compagnie d'électricité du Japon sur le réseau social X. Nous avons pu confirmer à distance qu'il n'y avait pas d'anomalie sur les installations destinées à diluer l'eau chargée en tritium et à l'évacuer dans l'océan. Par précaution, nous avons suspendu les opérations de ces installations conformément aux protocoles opérationnels prédéfinis. Peu après le séisme, l'autorité japonaise de réglementation nucléaire, NRA, a également annoncé sur son site qu'aucune anomalie n'avait été identifiée sur les installations nucléaires de Fukushima. Par ailleurs, France Info annonce que, selon l'agence météorologique japonaise, un séisme sous-marin de magnitude 6 s'est produit jeudi 4 avril au large des côtes de Fukushima, dans le nord-est de l'archipel nippon, sans déclencher là non plus d'alerte tsunami. La secousse a été estimée à 6.1 par l'Institut américain d'études géologiques, mais, là encore, je cite TEPCO, aucune anomalie n'a été identifiée au niveau de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Le séisme, qu'on a aussi ressenti à Tokyo, est survenu au lendemain d'un très violent tremblement de terre près de Taïwan qui a fait 9 morts et plus de 1000 blessés sur l'île ainsi que de nombreux dégâts matériels. Si on résume, et d'après le site Allquakes, en 24 heures, le Japon a subi 20 séismes d'une magnitude allant jusqu'à 3.5, à savoir 4 séismes de magnitude 3 ou plus, 16 séismes de magnitude comprises entre 2 et 3. Si l'on croit l'opérateur TEPCO sur parole, on ne détecte aucune anomalie après un séisme de force 5.8. Quelle sera la force nécessaire pour que TEPCO en reconnaisse ? Sans oublier que les dites anomalies ne sont pas forcément immédiates, mais peuvent apparaître dans les semaines suivant les séismes. Autre point du monde, autre information réjouissante, on apprend à l'instant qu'à Zaporijja, un drone aurait touché la centrale. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. À suivre.
Merci Dominique d'avoir lu ce texte de Georges. Les normes seraient des entraves à la liberté d'entreprendre selon la FNSEA. Ces dirigeants se sont répandus dans les médias lors de la dernière crise agricole avec ce slogan. Nous n'allons pas nous pencher sur les techniques agricoles dans cette émission, mais nous allons plutôt tenter de voir un peu plus clair sur les normes dans notre domaine de prédilection, c'est-à-dire le nucléaire. Alain Vol est le porte-parole du collectif Stop Tricastin. Je l'ai interviewé la semaine dernière chez lui, et il commence par nous expliquer, de nous donner sa définition des normes.
Ben, une norme, c'est une règle ou une convention que différentes parties s'engagent à respecter. En principe, une norme devrait faire partie d'un dialogue social et d'un consensus. Malheureusement, c'est rarement le cas et on a plutôt l'impression que les normes, on les subit. Bien entendu, plus c'est technique et plus c'est difficile pour un citoyen de faire entendre sa voix, parce qu'en face de nous, on a des experts qui pontifient et qui nous assènent de chiffres et de courbes. C'est difficile. Le problème de l'eau, du refroidissement des réacteurs, effectivement, devient de plus en plus aigu, à tel point que la CLIGET a organisé en septembre dernier une réunion publique sur ce sujet, puisqu'elle est intitulée « Enjeux et impact des évolutions climatiques sur les installations nucléaires de Tricastin ». Les réacteurs nucléaires de Tricastin utilisent 200 m3 par seconde pour la centrale pour refroidir les réacteurs. Ça veut dire que chaque année, la centrale de Tricastin a besoin d'utiliser 5 milliards de mètres cubes d'eau. Il y a eu une enquête de la CRIRAD en 2020 et elle avait annoncé 4,8 milliards parce que les réacteurs sont parfois en arrêt. Et dans le même temps, on nous annonce que compte tenu du changement climatique, l'étiage du Rhône à l'horizon 2050 pourrait baisser de 20 à 30%. Et ça, c'est l'agence de l'eau Rhône-Alpes-Provence-Corse qui nous l'a annoncé. Donc, pour EDF, le problème se pose. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à produire du courant électrique l'été, pendant les périodes de sécheresse ou de canicule, avec un Rhône qui est en train de diminuer aussi fortement? Et donc, toutes les centrales relâchent dans le processus de refroidissement une part importante de l'énergie sous forme de chaleur, soit dans l'eau, soit dans l'air. À Tricastin, c'est dans l'eau. Alors, le souci, c'est que en amont du circuit de refroidissement, un débit trop faible ou une température trop élevée, la norme actuelle c'est 28 degrés, ne permettent pas de refroidir suffisamment le circuit secondaire. Si c'est vraiment trop chaud, on ne peut pas refroidir. Et en aval, quand l'eau de refroidissement est rejetée, la réglementation environnementale impose aussi un débit et une température donnée pour maintenir les conditions vivables pour la faune et la flore aquatique, mais aussi plus prosaïquement, pour maintenir le bon état écologique en diluant suffisamment les rejets de toutes sortes. En sachant que chaque jour d'arrêt d'un réacteur, c'est 1 million d'euros de chiffre d'affaires de perdu, les enjeux sont donc énormes pour EDF si le réchauffement climatique s'aggravant, elle ne trouve pas les réponses adéquates.
Déjà, l'été dernier, il y a eu des dérogations pour dépasser ces valeurs.
C'est ça. C'est-à-dire que normalement, on ne doit pas rejeter de l'eau à plus de 28 degrés donc en aval. Mais comme il y avait effectivement une grosse canicule et l'étiage du Rhône était assez faible, EDF a demandé à l'autorité de sûreté nucléaire si elle pouvait avoir une dérogation. L'autorité de sûreté nucléaire elle-même demande à RTE, qui est le gestionnaire d'électricité en France, qui a dit, effectivement, pour alimenter effectivement la France, pour éviter une chute du réseau, il faut produire. Et donc, pendant 9 jours, EDF a été autorisé à rejeter de l'eau à 30 degrés. Alors, quand ils disent 30 degrés, c'est en moyenne. Donc, on peut imaginer que certains jours, on est même peut-être allé au-delà. Mais ça, on ne peut pas le savoir, puisqu'on n'a pas, de contrôle citoyen sur la situation. Donc, les dérogations, ça va peut-être continuer, mais ça fait un peu tâche parce que la presse en parle, la SN s'en mêle. Donc, mais c'est que dans son rapport de la Cour des comptes, elle évoque l'existence de seuils de température pour les rejets des centrales, qui est essentiel, mais la fixation des valeurs est ancienne et mérite d'être interrogée. Ça veut dire que la Cour des comptes suggère éventuellement une réévaluation des seuils de température. Comme tout augmente avec le climat, les températures, les canicules, les sécheresses, eh bien peut-être que les poissons vont prendre leur part aussi et que donc on pourrait réévaluer les seuils de rejet au niveau des températures. Rien de sérieux n'est vraiment prévu pour l'instant pour régler ce problème de besoin en eau face au réchauffement climatique. Et c'est bien entendu peut-être la solution de facilité du changement de normes qui sera adoptée, puisqu'il y a fort à parier que la production d'électricité risque de l'emporter sur la protection de l'environnement et de la biodiversité. Ça va de soi, quand on est sur des chiffres d'affaires d'un million d'euros par jour par réacteur, c'est évident que ça ne va pas changer la norme, ce sera peut-être la solution la plus simple. Et c'est inquiétant parce qu'à aucun moment, on ne va demander à la population, on va demander aux citoyens s'ils sont vraiment d'accord pour qu'on bousille le Rhône, qu'on bousille les poissons, qu'on bousille la faune et la flore. cette question qui va se poser de façon évidente et immanente mérite d'être creusée, discutée, et c'est pour ça que nous avons entrepris une campagne qui s'appelle Au Secours et que la CRIRAD vient de monter une exposition où elle pose des problèmes de l'eau. Donc beaucoup d'actions vont être menées dans les mois qui viennent sur ce problème de l'eau, qui concerne aussi bien entendu nos amis agriculteurs, puisque la Confédération paysanne est sur la même ligne en disant mais l'été, quand EDF aura besoin de l'eau pour refroidir ses réacteurs, nous, on aura besoin de l'eau pour nos cultures, les gens auront besoin de l'eau pour boire, et qui va répartir, les volumes d'eau ? Eh bien, pour l'instant, il n'y a aucun organe de coordination. Et ça aussi, c'est un sujet. Comment, qui va gérer la gouvernance de la répartition de l'eau dans la vallée du Rhône ? Personne n'a la réponse.
Merci à Alain Vol. Alors, je vous donne deux adresses. Si vous voulez des renseignements sur l'exposition que prépare la CRIRAD, vous allez sur leur site, crirad.org. Et pour avoir des renseignements sur nucléaire pompe pollue et réchauffe l'eau du Rhône, l'opération Au Secours, Au avec E-A-U, vous allez sur le site www.stop-tricastin.fr. Dominique va interviewer Dominique.
Voilà. C'est une affaire.
Eh bien, après ces normes de l'eau dont nous avions d'ailleurs déjà parlé dans une émission précédente avec Roland Desbordes, hein, parce que c'est un problème grave, eh bien, on va plutôt parler des transports, puisque tu étais cheminot, ancien membre du comité hygiène-sécurité nationale de la SNCF, et tu as réalisé plusieurs enquêtes. Alors, première question, Dominique, toute simple. Quelles sont les normes dans le transport nucléaire ?
Alors, d'abord, on a plusieurs types de transports. Il faut savoir que les matières nucléaires sont transportées par des trains, pour certains. Bon, je vais vous donner quelques chiffres. Hein, 200 transports par train, 200 transports annuels de trains nucléaires, notamment des combustibles irradiés, c'est-à-dire ce qui est le plus dangereux. Ça fait 4 par semaine, en moyenne. Hein. Des transports par camion, des centaines de transports par camion. Par exemple, le plutonium, c'est 2 camions par semaine. Le plutonium étant la matière la plus dangereuse et qui circule sur l'autoroute A7.
C'est énorme, on s'en rend absolument pas compte.
On s'en rend pas compte. 250 transports d'hexafluorure d'uranium, soit par train, soit par camion. Là, beaucoup moins radioactifs, mais en cas d'accident, ce sont des pollutions des rivières, des terres, etc., inévitables. 400 transports par an de combustible neuf qui partent de chez nous. Alors, je donne tous ces chiffres-là parce que, en fait, on est la vallée du Rhône, on a l'ensemble de ces transports. On a tous ces transports parce qu'on a les usines de fabrication de combustible à Tricastin et à Romans, on a les centrales nucléaires, 4 centrales nucléaires, 14 réacteurs, et on a également le retraitement à Cadarache, donc en dessous chez nous, du combustible usé pour refaire un nouveau combustible et qui nécessite le transport du fameux plutonium. Résultat, on a l'ensemble sur notre région de ces transports.
Il y a aussi des transports vers la Hague, je suppose.
Ah ben, les transports vers la Hague, c'est ceux dont je parlais, ce sont les transports par là. Pour le coup, c'est uniquement par train qui partent de l'ensemble des centrales vers la Hague. Et nous, bien, on a, comme je disais, 14 réacteurs. Donc, on a quasiment un transport hebdomadaire de wagons qu'on appelle des castors. C'est un acronyme allemand ou qu'on appelle aussi des châteaux nucléaires, qui sont les transports les plus dangereux puisque, pour vous-même, hein, vous mettez une demi-heure à côté d'un tel wagon et vous prenez votre dose annuelle qui est 1 millisievert par an. Alors, justement, parlons des normes. Les normes là-dessus, elles sont faites par l'industrie nucléaire d'abord. Sur les transports ferrés, c'est une agence internationale c'est l'Agence internationale pour l'énergie atomique, la IEA, qui définit les normes de transport par train. Pour la route, c'est l'État, hein, qui de fait, il n'y a pas de normes particulières. En fait, les camions nucléaires sont traités comme n'importe quel autre transport chimique ou autre. Quoi.
Est-ce qu'ils sont identifiables ?
Ils sont identifiables uniquement par les petits panneaux sur les camions, par exemple.
Les trèfles.
Les fameux trèfles, etc. Tous les trains nucléaires, mais par contre, on n'identifie pas ce qu'il y a vraiment dedans. C'est-à-dire, est-ce que c'est plus ou moins radioactif ? Voilà. Pour les trains, c'est pareil. Les wagons extrêmement radioactifs comme les châteaux nucléaires, parce que là, vraiment, quand on est à côté, on reçoit des rayonnements, eh bien, sont identifiés de la même façon que des transports de combustible neuf qui, eux, sont beaucoup moins irradiants. Ce serait dangereux en cas d'accident, mais vous pouvez rester à côté, enfin, rester pas trop longtemps quand même, mais enfin, vous pouvez passer à côté sans prendre de dose. Alors qu'avec les châteaux, c'est le cas. L'indication est la même. Hein. Il n'y a pas de truc en marquant wagon super dangereux. À tel point, et moi, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ça, c'est que moi, je travaillais dans un poste d'aiguillage à HR, en banlieue parisienne, et on s'asseyait. J'ai fait tous les métiers au début, donc y compris celui d'accrocher des wagons, et on s'asseyait sur les châteaux nucléaires en attendant que le loco-tracteur fasse le tour du triage.
Et ah oui, là, c'était bien, c'était chaud. Information, vous n'aviez aucune information, aucune précaution de prise.
Strictement aucune information sur ces normes ou règlements. Donc les normes, c'est bien, les règlements, c'est bien, mais encore faut-il que là où souvent ça pêche, c'est dans qui est-ce qui va percevoir ces normes et comment on informe les gens de ces normes et comment on les contrôle. Et sur les transports, ce qu'on avait relevé au niveau du Comité national d'hygiène sécurité, c'est que nous n'étions pas, et les conducteurs de camions non plus d'ailleurs, donc les cheminots comme les conducteurs de camions, de camions nucléaires, ne sont pas des agents du nucléaire. Donc ils ne suivent pas les mêmes normes médicales que les agents qui travaillent dans la zone contaminée, dans une centrale, ou qui transportent les wagons à l'intérieur de la centrale. Eux, ce sont des agents qui, en principe, par an, ils ne doivent pas dépasser 20 millisieverts par an, et non pas 1 millisievert pour nous, la population. Eux, c'est 20 millisieverts. Et comme ils ne peuvent pas dépasser cette contamination, ils ont un dosimètre sur eux, et un dosimètre en temps réel. C'est-à-dire qu'une fois que cet agent a, si jamais il est tombé sur une contamination quelconque, son dosimètre va l'alerter et on va le sortir immédiatement. Et il ne pourra plus retravailler pendant un certain nombre de temps, en tout cas dans la zone contaminée. Les travailleurs qui travaillent dans le nucléaire, sur le nucléaire, mais qui ne sont pas des agents du nucléaire, comme les cheminots et les conducteurs, eux n'avaient pas de dosimètre, du tout, aucun. Il a fallu attendre 1998 qu'on s'aperçoive que des wagons étaient contaminés pour qu'enfin on ait imposé le dosimètre. Mais on n'a pas le même type de dosimètre, nous. C'est un dosimètre suivi par la médecine du travail. Qui vous dit ou qui vous dit pas si vous avez dépassé les normes ou pas. D'ailleurs, les agents, aujourd'hui, moi j'ai posé la question à des cheminots, ils disent on ne le met plus parce qu'au bout de tel de 2 ou 3 mois, on le donne au médecin du travail, on n'a aucun retour. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on a été contaminé ou pas. On ne nous le dit pas. Voilà. Donc de fait, ils ne le mettent plus. C'est-à-dire que ce suivi de ces agents, ben, il n'est pas fait. De même, alors, j'oublie aussi une couche salariée, hein, qui sont les flics, qui protègent les wagons, parce que quand il y a des manifestations, on met des policiers, bah, ça nous est arrivé plusieurs fois de nous dire aux policiers, écoutez, on va se reculer, nous, pour que vous avanciez, vous, et éloignez-vous du wagon, parce qu'ils collaient les CRS et les gendarmes à un wagon qui était hyper contaminant. Alors, toutes ces études-là ont été faites par la CRIRAD, hein, qu'on connaît bien ici dans la Drôme. C'est grâce à la CRIRAD, d'ailleurs, que nous, le Comité national d'hygiène et sécurité, nous sommes rendus compte qu'en fait, on travaillait dans le nucléaire, et qu'on n'en avait pas la connaissance d'abord, et surtout que les normes s'appliquaient quasiment pas chez nous, quoi.
Alors, tu viens de parler des comités hygiène et sécurité, les CHSCT. Or, l'année dernière, ils ont été supprimés dans les entreprises et remplacés par les comités sociaux et économiques, CSE, qui n'ont pas tout à fait la même fonction. Quelles sont les conséquences de cette transformation et est-ce que ça accroît les risques ?
Les comités d'hygiène sécurité, les comités nationaux avaient été des thermomètres, des thermomètres qui ne fonctionnaient pas toujours très bien, mais qui disposaient quand même d'un certain nombre de prérogatives. Ils ont cassé le thermomètre. On peut dire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les prérogatives qui étaient celles des des comités nationaux ou des CHSCT ont quasiment disparu. Ces prérogatives, ça pouvait être de lancer un droit d'alerte. Ça pouvait être de mener des enquêtes payées par l'entreprise. C'est-à-dire le patron n'avait pas le choix. Le CHSCT votait une enquête. Voilà. Alors tout ça existe encore, hein, dans le Code du travail, sauf qu'on a rendu extrêmement plus compliqué pour une raison simple, c'est qu'on n'a plus de délégués spécifiques. Oui. Moi, j'étais militant CHSCT. Je ne m'occupais pas des horaires de travail. Enfin, si, je m'en occupais d'une autre façon, mais je ne m'occupais pas des négociations salariales, je ne m'occupais pas de tout ça. Là, on a tout mélangé. Ça va des vacances d'été des enfants jusqu'aux conditions de travail. Il est évident que les délégués perdent en compétences, perdent en formation, et on le voit bien.
Oui, et puis les réunions CHSCT étaient spécifiques, alors que maintenant on traite ces problèmes les autres.
On traite tous les sujets en même temps.
Voilà. C'est ce qu'on appelle la fameuse fluidité et l'allègement des normes. Alors, dernière chose, justement, tu nous as parlé de ces conducteurs et cheminots qui ne sont pas directement des salariés
et policiers.
Ça nous amènerait peut-être aux questions de la sous-traitance, parce que dans la nucléaire, il y a beaucoup de sous-traitance, et les sous-traitants n'ont ni la même compétence, et peut-être sont moins au courant des normes. Est-ce que c'est un problème particulier ?
C'est un problème qui se surajoute, en fait, puisque les salariés des transports notamment, n'étaient pas suivis comme les salariés du nucléaire, mais maintenant que les transports sont quasiment privatisés, quand on entend, moi j'ai des interviews, j'avais fait avec le CNHSCT des interviews de conducteurs de camions qui travaillaient pour la SNCF mais qui étaient sous-traités par la SNCF en fait, et ces conducteurs-là, eux ne bénéficiaient même pas d'un dosimètre. C'est-à-dire que même quand nous on l'avait imposé, eux n'en bénéficiaient pas, et pareil, leur suivi médical n'avait rien à voir avec celui que pouvaient avoir les salariés du nucléaire. Donc on le voit bien, plus on va sous-traiter, plus on va perdre en sécurité pour les salariés.
Eh bien, on s'en doutait un peu. Merci Dominique, on te réécoutera tout à l'heure.
Alors, pause musicale avec From Chernobyl with Love. Toujours à l'écoute de l'émission Atomic Mac sur Radio Méga, RDOA et Radiola. Radiola, Dieu le fit, j'avais oublié. Alors, nous continuons cette émission. Alors, j'ai oublié de vous dire que le groupe qui interprétait From Chernobyl with Love, c'est le groupe La Femme, un groupe français. Guillaume Vermorel est ingénieur en génie mécanique et productique. Je l'ai interviewé la semaine dernière chez lui en Ardèche. Il y a quelques petits bruits parasites parce que nous étions dehors en plein soleil. Et il commence cet entretien avec la fusion entre l'ASN et l'IRSN.
Est voté à l'Assemblée nationale à une voix près. La décision a été prise de regrouper l'ASN, qui est l'autorité de sûreté nucléaire, avec l'IRSN, qui est la partie études scientifiques, la recherche sur la sûreté nucléaire. Et donc, ces deux organismes qui travaillaient séparément, mais qui mettaient ensemble leur expertise, et l'autorité de sûreté nucléaire agissaient pour faire appliquer ce que proposait comme solution technique l'IRSN. Et donc, du coup, le gouvernement a décidé de fusionner, certainement pour faire une économie d'échelle, en prétextant d'accélérer les formalités dans l'industrie nucléaire. Mais en réalité, tous les syndicats et de nombreuses associations s'opposaient à ce projet. Du coup, on a une perte de compétences et surtout une pression supplémentaire sur l'autorité. Quand il y a un risque de vieillissement de nos centrales nucléaires, c'est là où il faut être le plus prudent possible. Et donc, c'est pas là où on devrait décider de rogner sur la sécurité et sur l'autorité de la sûreté nucléaire. Et l'étude scientifique technique sur la radioactivité et sur la sûreté nucléaire est faite par l'IRSN et l'ASN joue vraiment son rôle d'autorité. C'est pour ça qu'on la présente souvent comme le gendarme du nucléaire. C'était intéressant d'avoir deux entités un petit peu indépendantes l'une par rapport à l'autre. Ça les renforçait, elles se renforçaient mutuellement. Et là, ça ne sera plus, ou en tout cas, ça sera moins le cas avec cette fusion.
Ces derniers temps, on a beaucoup entendu dire qu'il y avait trop de normes. Est-ce qu'il y a vraiment trop de normes au niveau de la sécurité nucléaire ?
C'est vrai qu'il y a beaucoup de normes dans le nucléaire, mais en même temps, c'est plutôt une bonne chose parce que c'est ce qui permet de garantir et de viser la meilleure sécurité, la meilleure sûreté possible. Parce que du coup, ces normes sont faites pour que notre industrie soit réglementée, cadrée, la plus propre possible. Il y a quand même très peu de gens qui remettent en question ces normes. Mais parfois, qui arrivent quand même assez régulièrement contournées ou parfois des contrôles en interne qui se font parfois une volonté de tricher par rapport à ces normes. Je pense qu'en réalité, les normes sont vraiment utiles. Elles permettent à tout le monde d'être sur un pied d'égalité et puis surtout de nous protéger. Voilà, sans normes, c'est comme un monde sans loi. Ça peut être la liberté des uns au détriment des autres. Et donc, du coup, c'est parfois très risqué. Les Japonais ont changé leurs normes après l'accident de Fukushima pour que du coup les gens reviennent ou pour qu'on puisse à nouveau manger des produits qui étaient dans le périmètre plus ou moins éloigné de la centrale, des aliments qui auraient été potentiellement contaminés ou qui avaient des doses plus importantes que la dose naturelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que la norme, elle a pour but d'être respectée. Et une norme qui ne serait pas respectable, enfin qui ne serait pas atteignable, du coup, en n'ayant pas la possibilité de la respecter, elle devient inutile. Donc du coup, toutes les normes sont fabriquées de manière à pouvoir être atteignables assez facilement. Si les normes n'étaient pas atteignables à 90%, on ne pourrait pas les appliquer. Donc dans l'industrie nucléaire, mais comme ailleurs, ces normes sont co-construites avec les industriels, avec les organismes certificateurs, nos députés, nos sénateurs et puis des organismes certificateurs construits de manière à pouvoir être respectées. Et quand elles ne sont pas respectées, en fait, on relève les plafonds de manière à ce que ça soit respecté. C'est ce qui s'est passé à Fukushima, mais c'est ce qui se passe aussi en France. Les normes pour les rejets dans l'eau de la radioactivité ou dans l'air, elles ont été construites de cette manière-là. Même chose quand on voit pour les travailleurs du nucléaire. Les travailleurs du nucléaire, si les normes pour les travailleurs étaient les mêmes que pour les populations civiles, du coup, les travailleurs ne pourraient pas bosser dans une centrale nucléaire. Les débits de doses sont tels qu'ils seraient vite trop exposés. Et donc, du coup, en fait, ils ne pourraient plus travailler dans les centrales. Donc, on a relevé les normes pour les travailleurs du nucléaire. Voilà, c'est la même chose, le même fonctionnement pour tout le monde.
À partir du moment où on a décidé à un moment que la norme, c'était X, et que là, on monte la norme à 3, 4, 5, 10 X, ça veut dire qu'on s'est trompé au début. Ou là, on veut manipuler les chiffres ?
On ne veut pas forcément manipuler les chiffres pour le plaisir de les manipuler. On veut juste que ces normes soient respectables, atteignables, qu'on puisse atteindre les valeurs correctes. Et donc, du coup, quand on a un système qui dévie par rapport à un fonctionnement normal, propre, eh bien, du coup, on est obligé d'agir sur ces valeurs. Et donc, c'est pour ça qu'en cas d'accident nucléaire, forcément, on relève ces valeurs, essayer de piloter l'acceptable, en fait, tout simplement.
On a un postulat de départ, on va développer l'énergie nucléaire ou tout autre système. Mais pour qu'il soit viable, il faut qu'on mette des normes à un certain niveau. Parce que si on met à une norme, moi je pense que la norme idéale, ça serait zéro. Si je suis scientifique, parce qu'il y a des scientifiques qui pensent qu'il n'y a pas de faible dose, à partir du moment où un pouvoir centralisé a décidé que le zéro démarrait à plus 10. Entre 10 et 0, il y a des risques. Et qu'au départ du nucléaire, on n'a fait aucune étude épidémiologique pour faire un état zéro. Le bruit de fond, c'est 10 ou 0.
Quand on étudie un système, on l'étudie avant et après. et pendant aussi. Et donc là, avant, on ne l'a pas fait. L'étude de base n'a pas été faite. Du coup, on a fait abstraction de toutes ces questions de santé publique, de pollution. Et puis, ce n'était pas du tout la mode à l'époque. Hein. On pensait pas, enfin, on n'avait pas le recul qu'on peut avoir aujourd'hui en 2024. Donc, du coup, cet état zéro n'a pas été fait. Et aujourd'hui, on pilote avec comme objectif des valeurs acceptables. On accepte une certaine dose, on accepte un pourcentage de cancer de la thyroïde dans la population, un pourcentage de maladies induites. Effectivement, les faibles doses, elles sont difficilement évaluables en termes de santé, d'impact sur la santé publique, parce que du coup, c'est des expositions faibles, mais qui se font sur des longues périodes avec des maladies qui vont se déclencher X dizaines d'années plus tard. Donc du coup, c'est difficile de montrer les liens de cause à effet direct entre l'exposition régulière et le déclenchement, l'avènement de conséquences plus tardives. La priorité, ça a été de développer une industrie nucléaire. Ça n'a pas été de prendre en compte la santé actuelle des générations présentes et des générations futures, parce qu'on sait que même si on arrêtait les centrales aujourd'hui, il y aurait des problèmes à cause des déchets et de la pollution autour des sites nucléaires qui va se faire sur des siècles, voire des dizaines de milliers d'années. Les normes sont faites pour l'industrie et pas forcément pour les habitants et l'environnement.
Mais lorsqu'on arrête des installations centrales ou autres installations nucléaires annexes, ça produit énormément de déchets faiblement contaminés, des bétons, des ferrailles et tout autre élément. À l'heure actuelle, c'est considéré comme des déchets nucléaires et il y a une bataille pour justement remonter les normes et considérer ces déchets comme n'étant plus des déchets nucléaires.
Pour que les auditeurs captent bien la différence, ce n'est pas du déchet de combustible, ce n'est pas de l'uranium qui a été utilisé, c'est le matériel qui constitue les installations nucléaires. Donc ce sont les tuyaux, les canalisations, les pompes, les outillages, les bétons, tout ce qui constitue une usine nucléaire de base. Et donc quand on va la démanteler, on a déjà commencé à en démanteler, hein, Georges Bess 1, qui était l'usine d'enrichissement d'uranium pour fabriquer du combustible sur le site du Tricastin. C'était une grosse usine qui avait plus de 40 ans et elle a été arrêtée et elle est en train d'être démantelée. C'est un démantèlement qui va se faire sur 40 ou 50 ans. On se retrouve avec énormément de matériaux de mémoire. Je crois que c'est 60 000 tonnes de matériaux ferreux, acier, etc. Et c'est quelques milliers de tonnes d'alliages de cuivre. Des matériaux dont on ne sait que faire parce qu'ils ont été contaminés. On essaie de relever les normes de radioactivité acceptables et on essaie de découper ces morceaux de tôle, de tuyaux, de le renvoyer. Ce qu'aimeraient faire les industriels, c'est de les renvoyer dans des fours, dans des hauts fourneaux, les remettre en fusion, le remélanger avec de l'acier non contaminé dans une filière de recyclage et renvoyer ça dans la circulation normale des aciers, des matériaux pour pouvoir faire des châssis de camions, pour pouvoir faire
des casseroles, des trottinettes pour les enfants.
Exactement. On va se retrouver avec en fait une dissémination dans tout l'environnement qui va être problématique. Donc du coup, le risque de ce réutilisage, de ce recyclage de matériaux contaminés, il est important. Donc effectivement, ça va faire énormément de matériaux, énormément de béton et donc du coup, énormément de choses pour les démantèlements. Donc c'est pour ça que certains disent que le démantèlement des centrales nucléaires va être très compliqué. Certains émettent même un doute fort sur le démontage des 58 réacteurs nucléaires qu'on a aujourd'hui en France.
À Flamanville, ils ont installé un couvert du réacteur qui était fissuré, qui n'était pas aux normes. Pour éviter de le démonter, l'opérateur a changé les normes.
Quand on forge des cuves de réacteurs, si on met trop de carbone, l'acier devient fragile, c'est-à-dire que chaque fois qu'il va y avoir une montée en température ou un refroidissement rapide, du coup, on va avoir un risque de destruction du matériau, donc des fissures et des fuites et un potentiel accident majeur. Ce pourcentage de carbone, il est important, il est défini par des normes en fonction de la tenue au choc, le fameux résilience au choc thermique. Et donc, du coup, coup, on s'est aperçu que Creusot-Forge avait des problèmes dans ses procédés de fabrication. Ils ne respectaient pas les normes. Ils sont allés même jusqu'à falsifier des fiches de contrôle. Et donc, on s'aperçoit que du coup, ces pièces ont des malfaçons. Le couvercle a été amené à Flamanville et ils ont eu une dérogation en disant on a refait nos calculs, on s'est aperçu qu'il était capable de tenir malgré tout pendant 5 ans. Ils pourraient changer tout de suite le couvercle, mais je ne suis même pas sûr qu'ils en aient envie. En fait, ils ont envie d'abord de démarrer le réacteur, de le faire tourner malgré tout pendant 5 ans et après de changer le couvercle, alors qu'ils pourraient le changer.
Voilà, pour échanger maintenant, je laisse la parole à Dominique pour la deuxième partie de l'interview de Dominique.
Alors, simplement pour demander à Dominique s'il a quelques remarques à faire, et il en a certainement.
Des remarques, je suis globalement d'accord avec tout ce que dit Guillaume. Hein. Je rajouterais peut-être une petite chose, mais qui a été ajoutée par les agents de l'IRSN eux-mêmes. Ils expliquent les agents de l'IRSN aujourd'hui, dans leur refus de la fusion avec la SN, le fait que cet organisme scientifique qu'est l'IRSN publiait le résultat de ses travaux, donc de ses expertises, avant que l'ASN, qui est l'autorité de sûreté nucléaire, qui elle prend la décision politique d'une certaine façon, soit d'arrêter la centrale, soit d'arrêter l'usine, etc., ils publiaient leurs documents avant que l'ASN produise ses décisions. C'est-à-dire que l'ASN était tenue par des documents qu'elle ne maîtrisait pas. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Ils sont justement en train de fusionner les deux. Demain, l'ASN, ou en tout cas l'autorité politique, prendra le pas sur l'autorité scientifique. Et c'est... On revient, en fait, on va fêter bientôt les 38 ans de Tchernobyl. Il ne faudrait pas qu'on revienne au fameux service qui s'appelait le service central de protection contre les rayonnements ionisants,
professeur Pellerin. Le fameux SCPRI.
Voilà, le fameux SCPRI qui n'avait pas vu de nuages radioactifs sur la France. En fait, le gouvernement, là, pour relancer le nucléaire, a besoin de mettre à ses ordres l'autorité qui est chargée de la protection et de la sûreté.
Tout le monde reconnaît que cette dualité IRSN-ASN est essentielle. Eh bien, pour une fois que quelque chose marche, on va le changer.
Et qu'on est d'accord avec des pronucléaires, pour le coup.
Bon, eh bien, il nous reste un peu de temps pour parler de l'agenda.
Alors, nous t'écoutons.
Cette semaine, jeudi 11 avril, à Lux, à 20h, retour à la normale, un docu-fiction de Christina Firmino sur les conséquences qu'aurait un accident nucléaire. Le film sera projeté en présence de la réalisatrice et de deux membres de la CRIRAD. Trois membres de la CRIRAD que vous pourrez interroger à l'issue de la projection. Vendredi 26 avril, en commémoration de l'accident de Tchernobyl, la coordination de tous les groupes antinucléaires du Sud-Est appelle à un rassemblement à midi sur le pont Wilson à Lyon. Et puis un peu plus loin de chez nous, les rencontres printanières d'avril ont lieu à Bure et les burlesques d'août sont déjà programmées. En conclusion, eh bien, je laisse la parole à Gérard.
D'accord. Alors, cette émission est terminée. Retrouvez toutes les informations du réseau Arrêt du nucléaire 2607 au 0805 69 67 58. À la technique, Jean-Pierre. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour ton maniement des curseurs. À la rédaction du billet, il y avait Georges, billet lu par Dominique, et interview Gérard et Dominique, et Dominique et Gérard. Un grand merci à Dominique Malvaux, présent. Il a été présent alors qu'il était prévu en ligne, il nous a bien arrangé les choses. Alain Vol et Guillaume Vermorel, que nous avons rencontrés chez eux pour les interviews enregistrées, Atomic Mac, et réalisées le premier lundi du mois. Le prochain rendez-vous sera le 6 mai.
Atomic Mac est enregistré en direct à Radio Méga 99.2 à Valence, rediffusé à Radio Diwa, à Die et sa région, le vendredi à 12h15, 101.7, 107.5 FM. Rediffusion également sur Radiola, basée à Dieulefi, une web radio sur radiola.media. Merci auditrices et auditeurs d'écouter Atomic Mac sur les radios libres et au mois prochain.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant le repas, voilà tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement.